Bonsoir et bon début de semaine à tous. Des cas d'arrestation et d'enlèvement par les rebelles du M23 sont de plus en plus signalés à Goma, au Nord Kivu. De nombreux avis de recherche pour des personnes disparues circulent. Certaines sont interpellées par les forces d'occupation, d'autres enlevées par des inconnus. Cette situation suscite une grande inquiétude, notamment parmi les jeunes et les hommes adultes cibles de ces rebelles. Selon des sources locales, les rebelles du M23 conduisent les personnes arrêtées dans les cachots de leurs services, notamment à l'Agence nationale de renseignement ANR. Chaque jour, des messages, des dénonciations et des avis de recherche circulent sur les réseaux sociaux lancés par des familles sans nouvelles de leurs proches. Quelle lecture faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Augustin Moulumba. Il est député national et cadre de l'UDPS, premier vice-président de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale. Augustin Moulumba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Avec nous dans ce studio, Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, SID, en sigle parti de la coalition Lamouka et le Table du Nord Kivu. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir Kenny, bonsoir à tous les auditeurs.
Également avec nous dans ce débat, Jean-Claude Kiatende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado en sigle. Il est également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Jean-Claude Kiatende, bonsoir.
Bonsoir, madame Kenny.
À Goma, au Nord Kivu, vous êtes très nombreux à nous suivre sur la FM. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Kapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Eh bien, le rentre congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, vague d'arrestations et enlèvements des jeunes par les rebelles du M23. De nombreux avis de recherche pour des personnes disparues circulent, certaines étant interpellées par les forces d'occupation, d'autres enlevées par des inconnus. Cette situation suscite évidemment une grande inquiétude, notamment parmi les jeunes et les hommes adultes, principales cibles des rebelles. Selon des sources locales, les rebelles du M23 conduisent les personnes arrêtées dans les cachots de leur service, notamment à l'ANR. Le point avec Gisèle Cage.
Chaque jour, des messages, des dénonciations et des avis de recherche circulent sur les réseaux sociaux lancés par des familles sans nouvelles de leurs proches. Ces familles alertent l'opinion publique et parmi ces cas, une fillette de 6 ans a été enlevée le 1er mars dans le quartier Keshero à l'ouest de Goma. Samedi matin, Rufin Djombe, un jeune bien connu de Goma, a été interpellé à son domicile près du marché Alaline lors d'une perquisition par le rebelle. Il a été relâché dans la soirée, selon sa famille. Un autre cas récent concerne un pasteur de l'église Sebeka Katoy, enlevé chez lui par le rebelle du M23 et emmené vers une destination inconnue. La famille d'Innocent Chassinga Authentique, disparue depuis le 25 février à Goma, est également très inquiète. De plus, une personne sourde et muette a été tuée par balle par un rebelle dans la ville de Goma le 27 février dernier. L'association Aide Sonoki dénonce cette exécution d'un innocent en raison de son handicap. Tous ces incidents ne font qu'accroître la psychose au sein de la population des Goma qui se sont sacrifiés selon plusieurs acteurs locaux.
Toujours au Nord Kivu, les rebelles du M23 qui occupent la ville de Goma poursuivent la traque des présumés militaires Wazalendo FDLR dans les structures médicales et les quartiers. Après l'hôpital Île Africa, ces rebelles ont mené une opération similaire la nuit dernière à l'hôpital CBCA Ndosho, de Goma. Au moins 112 personnes ont été emmenées par le M23 au cours de cette opération, renseignent plusieurs sources locales. Les détails avec vous, Papy Martial Moukeba.
D'après des témoignages donnés par des voisins de l'hôpital, les rebelles ont fait incursion au sein de l'hôpital CBC Andocho dans les quartiers Kieshiro vers 3h du matin. Ces derniers ont emmené une bonne centaine de personnes, notamment des gardes malades, mais aussi des malades guéris, affirmé plusieurs sources. Toutes ces personnes sont considérées par les M23 comme des militaires et Wazalendo qui se seraient cachés dans les hôpitaux. Nos sources affirment également ce matin qu'une dizaine de civils qui avaient été pris dans les lots ont été relâchés après vérification et commencent à regagner l'hôpital d'après certaines sources. Jusqu'ici, personne ne sait dire là où ces personnes ont été conduites dans un cas de formation ou bien ont-elles été arrêtées. Ce sont des questions que se pose la population de Goma. Celle-ci exprime une angoisse grandissante au regard de ces opérations menées par les rebelles du M23 dans la ville de Goma. Nous n'avons pas encore réussi à joindre les responsables de l'hôpital CBC Andocho pour plus de détails.
Merci, Papy Martial Moukeba. Angoisse grandissante, grande inquiétude au sein de la population de Goma. Augustin Moulumba, je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'UDPS. Vous êtes premier vice-président de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Madame, ce qui se passe à l'Est est plus grave. Les actes posés par l'armée rwandaise sur notre sol constituent un crime de guerre. Ça viole non seulement les droits humains, mais aussi les droits internationaux humanitaires. Comment pouvez-vous comprendre? Hier, on a vu à l'arrivée de cette armée rwandaise sur le sol congolais, notamment à Goma, Nanga en train de chanter pour dire « c'est lui le libérateur ». Les femmes sont violées, les enfants sont violés. Ça constitue déjà un crime de guerre. Le procureur de la Cour pénale internationale devait s'en servir. Non seulement les viols sur les mineurs et sur les enfants, il y a aussi l'enrôlement des jeunes mineurs dans l'armée. Ce qui constitue, selon les statuts de la Cour pénale internationale, un crime de guerre. Donc nous vivons des atrocités totales dans toute l'Est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement aussi à Goma. Donc, nous vivons Mouzé Bis, ce que Mouzé avait fait à l'entrée de l'Afrique de l'Issie.
Vous parlez
l'armée rwandaise n'a pas changé de tactique. Comment vous pouvez vous imaginer un militaire qui est blessé au front et qui est interné dans un centre hospitalier et qui est en train d'être traqué par l'armée rwandaise? Donc, c'est grave. Nous lançons cet appel à la communauté internationale de connaître que ce qui se passe à Goma, plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, ça constitue déjà un crime de guerre.
Alors, crime...
Les enfants sont recherchés, les jeunes gens de l'UDP, si je peux aussi épingler un exemple, les jeunes gens de l'UDP sont recherchés, traqués et tués. Le nombre de morts, on ne connaît pas, parce que c'est eux qui gèrent la cité. Donc, madame, vous allez comprendre que cette prétendue libération nous prônée par Nanga n'est autre qu'une tuerie, n'est autre qu'un esclavagisme dans notre sol, sur notre territoire.
Alors, vous parlez des jeunes de l'UDPS qui sont traqués et tués. Vous avez des preuves, Augustin Moulumba, vous avez des cas concrets de ces jeunes-là qui ont été assassinés ou tués?
Nous avons nos membres, madame, nous avons nos membres, mais on ne sait pas citer leurs noms. Vous savez, il y en a ceux qui se cachent. Il y a ceux qui se cachent à Goma, là, dans des maisons qui ne savent même pas sortir, ceux qui se sont même déplacés du quartier. Vous savez que la radio Okapi est beaucoup plus suivie partout. On risque de citer et de pingler des cas, et les autres là qui sont restés seront tués.
Alors, vous parlez de situations sécuritaires très inquiétantes. Ce qui se passe là-bas constitue un crime de guerre, selon vous. Est-ce que on peut dire que l'homme l'ampleur de la situation sécuritaire aujourd'hui à l'Est avec l'arrivée de la rébellion et c'est différent d'avant l'arrivée du M23 dans la ville de Goma, parce qu'on sait qu'aussi avant l'arrivée du M23 dans la ville de Goma, la situation sécuritaire était très inquiétante. Il y avait des enlèvements, il y avait des tueries presque tous les jours, des bandits arrêtés presque tous les jours. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça s'est amplifié avec l'arrivée du M23?
Maintenant, c'est grave. Je crois que l'insécurité, dans des grandes villes comme la ville de Goma, il y avait des gaz isolés. C'est vrai que l'armée était à l'œuvre, les services de sécurité. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des tueries à bout portant, à ciel ouvert et à visage découvert, si on peut le dire ainsi. Les gens sont tués. Vous avez vu le cas le plus récent. Le jeune musicien qui a pu chanter contre cette armée rwandaise, il a été tué. Il y a des jeunes gens qui ont été brûlés dans une boîte de nuit, je ne sais pas, dans une terrasse. Il y a des élèves qui sont tués. Vous avez vu la vidéo, a circulé, a fait le tour du monde. L'armée rwandaise est allée même récupérer les jeunes gens à l'école pour l'enrôler de force dans l'armée. C'est tous ces actes-là qui constituent les crimes de guerre. Donc, la Cour pénale internationale pouvait s'en saisir sans moindre détour.
Alors, au moment où le M23 entre dans la ville de Goma, il y a eu au moins 4000 bandits qui se sont évadés de la prison de Mouzézé. C'est des bandits des grands chemins, hein, certains, qui étaient condamnés pour crimes, un peu crimes contre l'humanité, pour différents motifs. Faudrait-il mettre tout ce qui se passe dans la ville de Goma aujourd'hui sur le dos du M23, ou on peut dire aussi que ces bandits qui se sont évadés de la prison de Mouzété pourraient être aussi parmi les personnes qui sèment la sécurité dans la ville,
hein. Madame, mais c'est l'armée rwandaise qui contrôle la ville. C'est à elle celle d'assurer la sécurité de tout.
Augustin Moulumba,
nous connaissons sa pratique. La pratique de l'armée rwandaise, comme en 1997, et comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est de tuer à bout portant. Vous avez vu, si on peut parler de Goma, comme il y a des bandits qui se sont évadés, mais que les cas de Bukavu. Donc partout où ils passent, ils ne sèment que la terreur. Ils tuent à bout portant, ils n'ont pas la crainte. La sacralité de la vie n'est pas importante pour eux.
Et selon vous, ils tueraient pour quelles raisons? Puisqu'ils ont besoin de cette population-là.
Madame, je ne sais pas.
Le M23, selon vous, tuerait les civils pour quelle raison?
La pratique d'une armée étrangère sur le sol comme le Congo, c'est de semer la terreur. Il sait que la population n'est pas derrière elle. Maintenant, pour dissuader cette population à accepter, c'est de créer une psychose, de créer la paix. C'est ça qui amène maintenant, comme ils ne savent pas respecter les droits humains, ils ne savent pas respecter les droits internationaux humanitaires, comme les cas des militaires qui sont traités même dans des centres hospitaliers, c'est de tuer. Vous n'êtes pas étranger dans cette république. L'armée rwandaise, quand elle est entrée en 1997, donc c'est là où nous avons connu les Ntumbuyulu. Son modus operandi, c'était de tuer lorsque vous avez des accrochages. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le dos des bandits, le prétendu bandit. C'est l'armée rwandaise qui est en train de tuer à bout portant. C'est l'armée rwandaise qui est en train d'enrôler les jeunes mineurs. C'est l'armée rwandaise qui a inventé Nanga, aujourd'hui libérateur. Il ne doit que prendre ses responsabilités pour voir aujourd'hui de quelle libération il parlait, dès lors que la population n'est pas respectée, dès lors que la population est en train d'être tuée midi, matin, soir.
Jean-Baptiste Omundo Kasekwa, vous êtes avec moi dans ce studio de Radio Okapi. Vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, et SID en sigle, c'est un parti de la coalition Lamuka. Vous êtes également notable du Nord Kivu. De plus en plus, on parle des cas d'enlèvement, d'arrestation, enlèvement des jeunes dans la ville de Goma. On traque les militaires et les Wazalendo même dans les centres hospitaliers. Comment vous analysez cette situation?
La situation est très, très inquiétante. Non seulement à Goma, mais également les cris d'angoisse proviennent de Bukavu, où l'on dénombre de plus en plus des cas d'enlèvement, des cas de tuerie, des cas de pillage de véhicules dans la ville. Et pour ce qui est de la ville de Goma, je suis habitant de Goma. Et au cours de la législature 2018-2023, j'étais député national élu de Goma. Je m'emploie chaque jour à faire les décomptes macabres des personnes enlevées, des personnes tuées.
Je m'abstiens ici de parler du bilan donné par plusieurs organisations au cours de la période du 26 au 31 janvier. On a parlé d'un minimum de 3000 morts. Mais j'ai fait un monitoring qui va du 1er au 24 février. Des cas de personnes tuées, ça et là, dans différents quartiers de Goma. J'en ai dénombré 107 cas. 107 cas, 24 jours, ça donne une moyenne de 5 personnes tuées par jour à Goma. Et les cas les plus emblématiques, par exemple, le 6 février, dans le quartier Boujovou, aux côtés de l'aéroport, c'est un couple qui a été tué avec 3 enfants. Le 10 février, c'est le chef du village Kiziba, agroupement de Moudja, qui a été tué avec 3 de ses enfants et une femme adulte dans sa maison. Le 13 février, Augustin l'a dit, c'est le célèbre artiste et musicien Delcate Idengo, tué à bout portant, et le même jour, 4 autres personnes. Le 14, les chiffres ont doublé, on a dénombré 10 personnes tuées, dont 6 au quartier Office, 4 au quartier Ndoshu. Le 16, on a compté 20 personnes tuées, dont 9 au quartier Mugunga, 11 au quartier Ndoshu. Le 21, on a compté 30 personnes tuées au quartier Kasika derrière le Kakatindo. Le 24, on a compté 10 personnes tuées, dont 6 à Ndoshu, 4 à Mugunga. Ainsi de suite. Ça, ce sont des tués. Vous en venez maintenant au pillage systématique des véhicules. Tout véhicule de marque TX, Land Cruiser, Sarf, Noah, vous n'en trouvez plus aujourd'hui dans la ville de Goma. Non seulement Goma disait, je vous avais suivi un pasteur à Bukavu en train de crier qu'ils sont venus même emporter des véhicules des fidèles qui sont venus prier. À Bukavu, disais-je. Non seulement pillage des véhicules, mais pillage des magasins. À Goma, nous avons assisté à un phénomène sans nom. On a placé un blindé devant un magasin. Le blindé a tiré la porte, le magasin contenait des téléphones et tout le matériel électronique. On a tout emporté et les biens sont passés par la grande barrière. Tous ces véhicules pillés passent par la grande barrière pour être vendus au Rwanda.
Et donc tous ces véhicules pillés arrachés aux individus vont au Rwanda.
Au Rwanda où ils sont vendus. Non seulement aux individus, par exemple, ils ont emporté 15 véhicules de la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Emporté au Rwanda, vendu. Quel est le motif? On leur a dit depuis longtemps, j'avais sonné l'alerte en février 2023, que dans le message de mobilisation des combattants du M23, de l'armée rwandaise, on leur disait que le jour où ils vont prendre le contrôle de Goma, ils vont se récompenser sur le bulletin qu'ils vont retrouver dans la ville. Et c'est la pratique pour eux, non seulement par ce véhicule, mais également des cas de viol sont signalés ça et là. Ils ne s'empêchent pas.
Quelle serait la motivation, Jean-Baptiste Okasekwa?
La motivation, disais-je,
pour le M23, appuyé par le Rwanda, le pouvoir, de tuer la population civile.
Première motivation, disais-je, d'abord par ces pillages, les militaires rwandais se disent ils veulent se rémunérer par ces pillages. Deuxième motivation, ils vont asseoir, il faut instaurer la terreur et faire fuir tous les jeunes. Tout cela à mesure d'organiser la moindre résistance contre l'occupation. Il faut tuer, il faut s'asseoir par la terreur donc. Non seulement disais-je ça, vous avez parlé de cas d'enlèvement. Il y a par exemple un directeur de la RTNC, Touverwundi, enlevé et sa famille crie, n'a pas connaissance de là où il est. Non seulement lui, vous avez également, vous avez parlé effectivement de traque dans les hôpitaux. Non seulement l'hôpital Sébé Kandosho cette nuit, on parle d'au moins 116 personnes enlevées, parmi lesquelles des malades qui avaient subi des interventions chirurgicales, dont les plaies étaient en voie de cicatrisation. Ils sont enlevés brutalement des lits des malades, jetés dans des jeeps, dans des endroits.
Là, ce sont les témoignages que vous recevez des gens de la population de Goma.
De Goma, des familles des victimes. Ça s'est passé également à l'hôpital Hill Africa. C'est par là qu'ils ont commencé. Ils ont opéré de 1h à 3h. Ils ont fait le tour de tous les services. Certains gardent des malades. Certains malades sont allés même jusqu'à se cacher dans des plafonds. Ils sont montés dans des plafonds et braquaient des armes contre ces gens-là. Bref.
Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où ces gens qui sont enlevés sont emmenés?
Destination inconnue. Vous n'avez de compte. Il n'y a personne qui répond aux préoccupations de la population. Les édiles, on les amène à Rumangabo, dans des centres de formation militaire. D'autres disent qu'ils sont dans des cachots, mais d'autres sont simplement tués. Au centre-ville de Goma, ils sont entrés dans une parcelle. Ils demandent qu'on leur remette le clé de contact des trois véhicules. Et lorsque les gardiens de la concession hésitent, eh bien, ils tirent à bout portant et ils emportent les véhicules.
Alors, vous êtes d'avis, comme Augustin Moulumba, que la situation aujourd'hui s'est empirée, la situation sécuritaire.
La situation
parce
a dépassé.
Avant l'arrivée du M23, on parle aussi des cas d'insécurité.
Alors, je faisais le monitoring avant l'arrivée du M23. Eh bien, sous l'état de siège, la situation était devenue également horrible. Mais pas dans cette proportion. En 2019, par exemple, nous avons dénombré dans la ville de Goma 105 cas de personnes tuées tout au long de l'année. Ici, c'est 107 cas à 24 jours aujourd'hui. Voyez donc que les proportions ne sont même pas à comparer. Alors, je disais que non seulement à Goma, mais la situation est pareille à Djougou, en Ituri. Et là, ce n'est pas encore le M23. C'est sous le contrôle du gouvernement. La situation est pareille et pire à Beni, à Irumu. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, là où je ne suis pas d'accord avec Augustin, c'est de jeter son appel à la communauté internationale, procureur de ces pays, communauté internationale, je suis d'accord, qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Mais ce que je dénonce, c'est l'indifférence, l'insouciance du pouvoir de Kinshasa, qui fait comme si de rien n'était. Lorsque vous suivez les propos de Félix, devant ses députés et sénateurs de l'Union sacrée, il se cabre toujours dans une ligne dure, militariste, alors que jusqu'à présent, le régime a démontré totalement son incapacité à protéger les populations, à défendre l'intégrité territoriale, et donc se cabrer dans une ligne rouge militariste aujourd'hui, en comptant sur les effets éventuels des sanctions de la communauté internationale. Alors que manifestement, Kagame se moque des sanctions. Pendant que l'on adopte des sanctions, eh bien, il a pris Bukavu. Il est allé jusqu'à Kamanyola, Luvungi. Aujourd'hui, pendant que l'on parle des sanctions, eh bien, il prend le contrôle de toutes les entités autour du chef-lieu du territoire de Lubero. Sur l'axe Masisi, les offensives sont en cours. Et que Félix donc se cabre pour dire, il ferme et bloque ses oreilles, ne pas répondre à l'appel des pasteurs et des évêques de la Cinco, et dire il se cabre pour attendre que les effets, les sanctions résolvent d'elles-mêmes la situation, ça montre un égoïsme exagéré, ça montre une indifférence que j'ai du mal à qualifier.
Jean-Claude Katende, avocat et président de l'association africaine des défenses de droits de l'homme, Azadou en sigle. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Peut-on parler de crimes contre l'humanité avec tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma et même à Bukavu, comme l'a souligné Jean-Baptiste Mouendo Kasekwa.
Madame Kelly, je voudrais d'abord présenter toute ma compassion aux populations des territoires qui sont actuellement occupés par les M23 et l'armée rwandaise. Ce qui se passe dans ces territoires-là est extrêmement grave et ne peut pas être dissocié du carnage de plus de 3000 personnes qui ont été tuées à Goma. Et je rappelle que les cadavres de ces personnes ont été laissés à découvert pendant plusieurs jours dans le but seulement d'intimider la population, dans le but de contraindre la population à ne pas réagir et que dans le cas de toute réaction, elle subirait le même sort. Les actes qui sont commis par les M23 et l'armée rwandaise relèvent effectivement des crimes de guerre et à d'autres occasions des crimes contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle la CPI s'est intéressée aux faits et aux crimes qui sont commis à l'est de notre pays. Tout ce qui se passe dans ces territoires occupés relève de la responsabilité du M23 et de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, ils sont maîtres des territoires qui sont occupés, donc ils ont la responsabilité de veiller sur la sécurité de la population, que cette insécurité vienne d'eux-mêmes ou des bandits qui sont dans la ville. Ils doivent sécuriser tout le monde et c'est leur obligation. Vous allez vous rappeler que M. Nanga et ses amis ont justifié leur prise d'armes par le fait que les droits de certains d'entre eux n'étaient pas respectés, que la gestion de Kinshasa n'était pas orthodoxe. Nous aurions souhaité voir que les choses se fassent différemment. Fort malheureusement, on constate que ceux qui ont pris les armes pour protéger leurs droits, ils sont les premiers à violer les droits des habitants des territoires qui sont occupés. C'est qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Je pense personnellement que dans la mesure où le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a plus de mainmise sur ces territoires, il est clair que ce qu'on peut lui demander, c'est de mener la campagne au niveau international pour que ce qui se passe à Goma, à Bukavu et dans les autres territoires occupés soit connu de la communauté internationale et que les pressions soient faites sur M. Nanga et l'armée rwandaise pour qu'ils assurent la sécurité et le respect des droits de l'homme pour toutes les personnes qui sont dans ces territoires. Je pense que c'est vraiment important. Je pense aussi que les sanctions qui sont prises contre le régime du Rwanda doivent être considérées comme une avancée. Il y a quelques années, la communauté internationale ne bougeait même pas. La situation difficile, en fait, l'occupation de notre pays par l'armée rwandaise ne faisait mouvoir personne. C'est vrai que M. Kagame peut faire semblant que cela ne lui pose aucun problème, qu'il ignore les sanctions, mais il ne peut pas ignorer les sanctions. Dans la mesure où le Rwanda vit essentiellement de l'argent des minerais qu'ils volent en République démocratique du Congo, mais aussi de l'aide de la communauté internationale. Et donc, je pense qu'il faut continuer sur cet axe-là pour que les sanctions contre le Rwanda, contre les M23, soient renforcées et en même temps aussi mettre en place un plan pour la libération de ces territoires qui sont aujourd'hui devenus en fait une jungle. On peut dire que même avant l'entrée du M23 et de l'armée rwandaise, à Goma, il y avait des exactions, mais pas de cette ampleur-là.
Alors, ces enlèvements, selon vous,
étaient...
Je disais ces enlèvements, selon vous, ces arrestations, peuvent-ils affecter, Maître Jean-Claude Katindi, la cohésion sociale à Goma ou même à Bukavu?
Non, mais pas seulement à Goma, sur l'ensemble de notre pays. Vous savez que beaucoup de Congolais, même qui sont sous la partie du pays contrôlée par le gouvernement, ont leurs frères, ont leurs sœurs au niveau de Goma, au niveau de Bukavu et des autres territoires. Et donc, ça affecte tout le monde et de manière grave. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas que les gens de Goma et de Bukavu peuvent considérer, en fait, les M23 et l'armée rwandaise comme bienvenus. Au moment où je vous parle, j'ai des amis à Bukavu, j'ai des amis à Goma, qui ne sortent même pas dehors, parce qu'ils risquent de se faire prendre par les M23 et l'armée rwandaise. Donc ça affecte non seulement l'unité de notre pays, mais aussi la cohésion nationale à tous les niveaux.
Vous allez rester en ligne, Maître Jean-Claude Katindi. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
C'est M. Blaise Saïd Atoubou depuis Kisangani. Les arrestations et les enlèvements des rebelles du M23 dans le nord et Sud Kivu, notamment dans la ville de Goma et Bukavu, c'est juste violation des droits de l'homme. À ce niveau, il y a des dispositions tant nationales qu'internationales. Il est essentiel de documenter minutieusement toute violation des droits de l'homme avec preuves de témoignages, de manière à renforcer les plaintes. À mon avis, les organisations internationales de défense des droits de l'homme, telles que Amnesty International, Human Rights, Médecins Sans Frontières, ces organisations peuvent porter plainte au nom des victimes ou encore sur les violations et aider à attirer l'attention internationale sur la situation.
Que pensez-vous de la proposition de cet auditeur de Kisangani, Maître Katindi?
Madame Kelly, mais notre auditeur, il est en train de frapper sur une porte qui est ouverte. Vous allez vous rappeler que certains membres du M23 ont été déjà condamnés par les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ici à Kinshasa. Il y a eu des procès qui ont eu lieu. Mais les crimes qui sont en train d'être commis aujourd'hui sont des crimes extrêmement graves. Et je suis d'accord avec lui que les ONG nationales comme internationales peuvent continuer à documenter les cas de violation des droits de l'homme qui sont dénoncés. Et c'est pour ça que les procureurs, près la Cour, n'est-ce pas, la Cour pénale internationale, a fait appel aux témoignages, pour que ceux qui sont témoins de ce qui est en train de se commettre puissent faire des témoignages, puissent apporter des preuves. Et je pense que la Cour pénale internationale peut faire un travail dissuasif sur ce qui se passe à l'est de notre pays. Je pense aussi que si parmi les membres du M23, les membres de troupes rwandaises, s'il y en a qui ont des nationalités étrangères, il est possible que des plaintes soient portées par les victimes dans les pays étrangers dont ils sont ressortissants. Ce qui est vrai, c'est que il ne faut pas que les crimes actuels restent impunis, parce que l'impunité est aussi à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Si les anciens crimes avaient été sanctionnés au niveau national comme au niveau international, nous ne serions pas là. C'est pour ça que nous saluons l'annonce qui a été faite par le procureur près la Cour pénale internationale de pouvoir mettre en place un tribunal international pour la République démocratique du Congo. Parce que non seulement il y a des criminels qui sont ressortissants de notre pays, mais il y a aussi des criminels qui sont ressortissants des pays étrangers, des pays voisins. Donc, aujourd'hui, je pense que la lutte contre l'impunité doit être, en fait, l'action principale de la communauté internationale, mais aussi de la communauté nationale, du gouvernement national. Parce que tant que les gens ne seront pas punis, il est clair que ce qui se fait aujourd'hui va se répéter demain. Parce que les M23 et les taux rwandaises ne sont pas à leur premier coup. En 2012-2013, ils étaient encore là. Ils ont commis des faits répréhensibles, mais ils n'ont jamais été poursuivis et condamnés. Donc, il faut qu'on arrive à un moment donné à sanctionner les Congolais comme les étrangers qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les Congolais.
Merci, Maître Kiatende. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Kiapi. Apôtre Aimé Batantou pense que Corneille Nangaa ne contrôle plus rien. Il est déjà pris en otage par le Rwanda. Il défonce Moulopoix. Voilà, Quasimoto, vous nous suivez, vous êtes surveillant la prison centrale de Goma, vous nous suivez en direct depuis Ndosho. Chance Kabindi, l'est du pays semble être abandonné et oublié par le gouvernement en place. Dengo Kapupas demande en quoi le M23 est libérateur. Alors, on va se rendre cette fois-ci à Kananga pour prendre cet autre auditeur qui nous appelle.
Votre Altesse Hervé Kasunga, depuis Kananga, dans la province du Kasaï central. La situation sur la table est la conséquence fâcheuse de notre incapacité à trouver des solutions aux problèmes qui nous accablent. Ce qui est arrivé devrait être évité. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Nous n'avons pas pu nous protéger et protéger nos populations. Certes, nous sommes, à cause de manque de volonté efficace de la part de nos différents acteurs, à œuvrer pour l'intérêt supérieur de l'État congolais. Nous sollicitons une prise à risque pour reconquérir nos provinces par tous moyens, pour redonner une lueur d'espoir et de paix à notre population. Garder cette posture ne nous mènera qu'aux désolations, aux crimes subis, pleurs et grincements de dents. Un rebelle ne reçoit pas d'ordre, il ne connaît ni la loi ni le droit. Lui-même, c'est la loi. Ce qui se passera sera pire que ce qui est actuellement. L'essentiel, c'est de chercher les moyens pour déloger l'armée rwandaise sur notre territoire.
Je vais ajouter cette autre réaction de David Wedi qui nous suit depuis Kitenge 1 dans la province du Sankuru. Il pense que ceci est le résultat de la négligence de nos autorités qui ont négligé cette guerre avant qu'elle ne se métamorphose comme aujourd'hui. Maintenant, la population est abandonnée à son triste sort. Tôt ou tard, le Rwanda va payer. Augustin Moulumba, votre réaction?
Madame, je crois il y a des Congolais qui parlent comme s'ils ne sont pas au pays. L'armée rwandaise réclame les accords signés en 2012. Les velléités expansionnistes de cette armée est connue du président Kagame. Les accords signés entre le président Kabila père, Kabila fils, c'est ça le désastre que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, cette armée n'utilise que l'inconscience du Congolais, comme ceux qui parlent, je ne parle pas de ceux qui parlent qui sont inconscients, comme ceux qui savent à l'est dans le M23, pour exercer sa pression sur le Congo afin d'extraire les minéraux. Est-ce que nous pouvons savoir aujourd'hui ce qui se produit sur le terrain, c'est le résultat du mixage, c'est le résultat du brassage. Dans un pays normal, comme on peut le dire, il y a quatre facteurs dans la géostratégie. Le premier facteur, c'est la construction du système de défense et sécurité. La question qu'on peut se poser avec acuité, est-ce que nous avons relevé certaines faiblesses dans notre armée? Oui. Vous êtes sans savoir à l'aise. Là, vous avez vu tout un officier en train d'avaler la cime parce qu'il a accepté de trahir son pays
en donnant des informations à l'ennemi. C'est ce que nous sommes en train d'être fait. Donc, les Congolais ne savent, certains Congolais ne voient pas que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas la gestion du pays, c'est les vérités expansionnistes du Rwanda.
Mais est-ce que vous n'avez pas négligé un peu cette question de l'Est? Parce que lorsque Bounagana et tout montre les mains du M23, deux ans après, je pense, hein, nous sommes à la deuxième année, ou la troisième, je ne sais même plus, deuxième.
La troisième année, madame.
La troisième année, merci. On n'a pas vu le gouvernement se mobiliser comme aujourd'hui, hein, comme pour Goma ou Bukavu.
Les efforts sont conjugués. Je prends témoin l'honorable Jean-Baptiste qui a été avec nous dans la législature passée. Dans les annales de l'histoire, l'armée était dotée à 400 millions. C'est pour la première fois que la dotation de l'armée passe de 400 millions jusqu'à 1,5 million de dollars. La difficulté, c'est que l'infiltration qui a été organisée par le régime passé, en acceptant d'associer dans notre armée de les infiltrer, c'est ce qui fait que si la ligne de front, permettez-moi les termes, c'est même ceux qui ont dirigé, qui commandent la ligne de front, des sujets à nature compliquée, ça compliquait effectivement l'avancée de notre armée sur le terrain. La volonté politique est là. La résilience, les conditions posées par le président, c'est républicain, il faut les reconnaître. C'est pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Si nous acceptons aujourd'hui de négocier avec Nanga, mais qu'est-ce que nous allons donner au Rwanda parce que Nanga a signé le contrat avec le Rwanda? Ce sont les militaires rwandais qui meurent sur notre sol. Donc les Congolais doivent comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, nous devons nous unir pour bouter hors de notre territoire l'armée rwandaise.
Donc le gouvernement congolais a décidé d'utiliser la force pour déloger tous ces rebelles.
Nous sommes en train d'utiliser la force. Nous sommes sur tous les deux fronts.
Il ne sera plus question de diplomatie.
Les fronts militaires et les fronts diplomatiques.
Ah d'accord, merci.
Nous déplorons exactement ce qui se passe dans l'armée, parce qu'il y a des patriotes qui ont accepté de trahir, et il y a d'autres qui se battent au risque même de leur vie.
Merci, Augustin Moulumba. Emmanuel Kitoko nous suit depuis la ville de Goma. Nous qui sommes ici sur place à Goma, ça fait très mal de voir une grande partie du pays sacrifié pour des intérêts d'un groupe des gens, tout ce pays ici-bas. La façon dont la population souffre ici, vous n'allez pas imaginer. Dites-nous, les gens en cravate à l'Assemblée nationale font quoi? Vous qui me lisez ici, priez pour cette population de Kivu, Goma et Bukavu. L'espérance de vie est de 12 heures. Cette population de l'Est, de la RDC, a fait quoi pour mériter tout ça? On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle, de Kinshasa.
Junior Bompongo, depuis la ville province de Kinshasa. Les M23 qui se prétendent libérateurs révèlent son véritable visage. Celui d'un oppresseur implacable, sèmant la terreur parmi les civils qui prétendent libérer. Les arrestations arbitraires, les disparitions forcées et les enlèvements ciblés illustrent une stratégie de domination par la peur où chaque homme en âge de résister devient une cible. Derrière les vernis d'une cause revendiquée par ces groupes rebelles, ces exactions ne sont que l'expression brute d'une volonté d'asservissement. Un mouvement qui s'arroge le droit de vie et de mort sur une population n'a rien d'un libérateur. Il n'est que le bourreau d'un peuple pris en otage. Face à cette dérive, le gouvernement congolais et la communauté internationale doivent vite cesser toute complaisance et reconnaître la nature criminelle du M23. La résistance populaire et la justice finiront toujours par prévaloir.
Jean-Baptiste Kasekwa, la ville de Goma, c'est environ, si je n'abuse pas, environ 2 millions d'habitants. Goma, en un mois, est-ce possible de pouvoir stabiliser cette ville?
Alors, de mon point de vue, si nous capitalisons l'expérience des décisions prises par la CIRGEL, au sommet du 24 décembre 2012, lorsque, une fois de plus, le Rwanda avait endeuillé la ville de Goma le 20 novembre 2012. Marier ces résolutions-là avec les recommandations du sommet des chefs d'État de Dar es Salaam du 8 février 2025, il est possible de trouver une solution. En 2012, qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été demandé au M23 de se retirer de Goma. Et ici,
Il faut trouver des mesures pour que l'M23 se retire de Goma et de Bukavu et de toutes les localités environnantes dans l'immédiat. Il a été demandé que l'aéroport en 2012 soit sous contrôle de la MONUSCO. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise et l'M23 qui veulent demander, qui font toutes les manœuvres pour que même la MONUSCO se retire de Goma et que les forces de la SADC se retirent de Goma, de telle sorte que l'armée rwandaise sera sans témoin gênant pour perpétuer leur crime. En 2012, il a été demandé que pour la sécurité de Goma, un bataillon des FARDC et des unités de la police nationale congolaise soient redéployés en dehors 48 heures dans la ville. Lorsque vous lisez les recommandations du sommet d'Addis Abeba du 8 février, sommet SADC et AC, eh bien, on est resté à minima. On fait la stratégie de l'usure, on veut gagner du temps. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que, un, le régime Félix souffre d'un manque de crédibilité au niveau sous-régional et international pour obtenir des résolutions contraignantes. De deux, le régime de Félix a dévoilé une incapacité à protéger l'intégrité du territoire national. Et donc, pour obtenir des mesures identiques à celles de 2012, parce que la situation est extrêmement grave et ne peut pas attendre, Auguste dit, il faut attendre la communauté internationale, même mon frère Jean-Claude Katené réfère à la CPI, mais l'expérience des massacres du Kasaï en 2017 montre combien la justice internationale a une lenteur exagérée. Même les massacres de Ouazalène ou de Goma du 31 août 2023, c'est seulement au bout d'une année que le rapport d'Amnesty International a été publié. J'étais dans les tiroirs jusqu'aujourd'hui. Le massacre de Kishishe, est-ce qu'il fallait, il faut encore attendre 2 à 3 ans? Non. J'estime qu'en interne, si Félix fait preuve d'humilité, accepte de soutenir les schémas, l'initiative des évêques, à l'intérieur du pays, nous pouvons construire la cohésion interne. Cette cohésion interne aura un effet immédiat. C'est de rétablir la crédibilité du leadership national congolais, crédibilité au niveau sous-régional, au niveau international. Par cette crédibilité internationale, nous pouvons obtenir rapidement la mise en œuvre, la prise de mesures identiques à celles du 24 novembre 2012. Et nous allons mettre le Rwanda et l'M23 sous pression. S'il va se révéler, j'attends, Félix s'accroche.
Alors, je vais vous demander aussi de vous résumer pour conclure, hein, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Félix et tous les amis de l'Union Sacrée s'accrochent sur le refus du mixage et du brassage. Il ne faudrait pas qu'ils fassent de la récupération. Dans la lettre de Ibalang du 28 octobre 2019, il est démontré qu'ils ont signé avec l'M23, qu'ils vont les intégrer dans l'armée et dans la politique. Dieu merci qu'ils se soient ravisés aujourd'hui. Mais si, par exemple, l'initiative SSC5O est soutenue par nous tous, nous sommes tous, même les évêques, ne sont pas d'accord avec une opération de mixage et de déplaçage. Autour d'une table, nous allons dévoiler à la face de la communauté internationale qu'une fois de plus, la stratégie du Rwanda, c'est de rajeunir l'infiltration dans notre appareil sécuritaire. Nous n'en voulons pas, nous allons les isoler et diplomatiquement, nous aurons restauré la crédibilité de la gouvernance interne et nous allons réussir dans la pression.
Merci.
Dans les cas contraires, que Félix s'affirme dans une approche égoïste, je le dis bien, de demander que les gens viennent autour de lui pour un partage de postes alors qu'il fait lui-même partie du problème, eh bien, le moment venu, nous allons tirer toutes les conclusions qui s'imposent.
Qu'est-ce quoi, Jean-Claude Katende, votre conclusion, hein, quelles sont selon vous hein, les mesures concrètes qui peuvent être mises en place ou mises en œuvre pour renforcer la sécurité des civils et à Goma et à Bukavu?
Merci Madame Kenny. Mais très rapidement, avant d'en arriver à la question que vous m'avez posée,
nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, effectivement, nous sommes à la fin de l'émission et je voudrais dire que ce qui arrive dans les territoires occupés n'est pas seulement du fait du régime du président Kabila ou des brassages et autres mesures qui ont été prises à l'époque. Je pense que l'approche du président Tshisekedi sur le problème de l'Est du pays, nous l'avons décrié plusieurs fois. Et qu'aujourd'hui, il est question qu'on se mette tous ensemble, qu'on discute de ces questions. Les frères et sœurs qui sont à l'Est sont dans les territoires sur lesquels notre gouvernement n'a pas la même mise. Il est important qu'on puisse inviter, appeler la communauté internationale à faire pression pour que les violations de droits de l'homme qui sont en train de se commettre cessent.
Merci, Maître Jean-Claude Katende. Augustin Moulumba, vous avez 30 secondes pour conclure.
Madame, moi, je voudrais profiter de votre micro pour mobiliser la population congolaise, parce que c'est notre mère patrie. Les gens ont parlé du dialogue, bien entendu. Le président de la République n'a pas refusé le dialogue. Si nous allons nous parler nous-mêmes comme Congolais pour nous unir, mais la question reste entière. Parce que le Rwanda, les vérités expansionnistes, ils cherchent les minerais du Congo, ils cherchent nos terres. Je crois que se réunir entre nous, Congolais, il n'y a aucun problème et ça ne résoudra même pas le problème. Si on dit que le président a pris une posture, je ne sais pas comment on le traite.
Qu'est-ce que vous vous proposez à la place?
Pardon?
Qu'est-ce que vous proposez à la place, puisque vous estimez que ça ne va pas résoudre le problème? Qu'est-ce que vous
pendant
vous proposez?
Pendant ce moment, on ne voudrait pas qu'on parle de l'opposition ou de la majorité. Moi, je propose que tout le monde soit uni derrière le président de la République, qui est le commandant suprême. Tout le monde soit uni derrière notre armée pendant ce moment de dure épreuve. Je crois que c'est comme ça que nous pouvons surmonter les épreuves.
Merci Augustin Moulumba. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Mathieu, Freddy Bikumbi et Bertin Kassiama qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Merci également à Jonathan Fouanani, Clément Chimanga et Hervé Vauquin qui étaient à la mise en onde, plutôt derrière les caméras. Derrière les caméras, la mise en onde était assurée par... André Polidor Basunga, André Mongou et Dieudonné Nyangasa. Martin Sou, Sebou Jangou a supervisé ce programme. Présentation et coordination Kéline Kouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.